Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightnartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en français aux éditions du Félin en 2009. Dans une traduction de Nicole Casanova, le journal poétique de Sissi rassemble des poèmes d'Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. Ce livre ne relève pas du journal intime au sens strict, il donne plutôt accès à une écriture poétique personnelle, satirique et politique, longtemps dissimulée au public. Les manuscrits, signés du pseudonyme Titania, avaient été confiés à la Suisse avec la consigne de ne les rendre publics que 60 ans après la mort de l'impératrice. Ils ne furent finalement publiés qu'en 1984. L'édition comprend un travail éditorial de Brigitte Hamann et une préface de Catherine Clément, qui replace les textes et leur singulier destin dans leur contexte. À travers ces vers, l'icône romantique popularisée par la culture européenne cède la place à une femme hostile aux contraintes de cour, affectée par les drames familiaux et attentive aux crises politiques de son époque. L'intérêt majeur du recueil tient à cette confrontation entre une légende impériale et une voix d'auteur beaucoup plus irrévérencieuse. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une contre-image de Sissi de l'icône impériale à la voix insoumise, le premier apport du recueil est de déplacer l'image habituelle d'Élisabeth d'Autriche. La mémoire populaire a largement retenu une impératrice jeune, belle, indépendante et mélancolique, souvent réduite à son élégance ou à son mal-être dans le cérémonial des Habsbourg. Les poèmes font apparaître une personnalité plus abrasive. La présentation de l'édition insiste sur son impertinence. Son humour et son refus des hiérarchies établissent autant de traits qui corrigent une représentation trop décorative de Sissi. Cette voix ne cherche pas à produire un portrait officiel de l'impératrice. Elle utilise au contraire la poésie pour manifester une distance critique à l'égard de son milieu. Cette dimension compte parce que l'écriture donne à Élisabeth un espace qui échappe, au moins partiellement, à son statut. Soumise à une étiquette rigoureuse et à une visibilité constante, elle trouve dans le vers un instrument de jugement, de raillerie et d'expression de ses contradictions. Le livre invite donc moins à chercher des confidences transparentes qu'à observer la construction d'une parole personnelle. L'emploi du pseudonyme Titania renforce d'ailleurs cette séparation entre la fonction publique et l'auteur. La valeur documentaire du volume réside précisément dans ce décalage, il ne livre pas une vraie Sissi définitive, mais montre comment une souveraine contestait, par la littérature, l'image que sa position imposait d'elle. Deuxièmement, la cour des Habsbourg vue comme un espace d'ennui, de conflit et de surveillance. Les textes renvoient à une existence marquée par les tensions de la vie dynastique, disputes conjugales, petits scandales de cour, assiduité des admirateurs, voyages et comportements que l'entourage pouvait percevoir comme des caprices. Ces éléments ne composent pas une chronique ordonnée de la monarchie. Ils font plutôt sentir l'atmosphère d'un univers où l'intimité est fragile et où chaque geste peut devenir objet de commentaires. La cour apparaît ainsi moins comme un décor prestigieux que comme une structure contraignante, gouvernée par les conventions, les réputations et la représentation du pouvoir. Le caractère poétique du livre est essentiel à cette lecture. Les poèmes ne fournissent pas une archive neutre ni un récit factuel continu. Ils transforment l'expérience vécue en traits d'humeur, en attaque, en caricature ou en notation affective. Cela impose au lecteur de ne pas les traiter comme une source historique autosuffisante. En revanche, ils éclairent remarquablement la manière dont Élisabeth pouvait ressentir le poids de sa condition. Sa mobilité fréquente, évoquée dans la présentation éditoriale, peut se lire comme une réponse à l'immobilité symbolique du rôle impérial voyager, permet de s'éloigner du palais sans abolir les obligations attachées au rang. Le recueil fait donc comprendre que le malaise de Sissi ne se réduit pas à une disposition personnelle. Il est aussi lié à un système de cour qui transforme la vie privée en affaires politiques et protocolaires. Troisièmement, le deuil et l'angoisse, une poésie traversée par les ruptures de la fin de vie. Le journal poétique est associé aux épreuves qui ont jalonné la vie d'Élisabeth, les troubles familiaux, la mort de Louis II de Bavière, cousin auquel elle était attachée et, dans l'histoire du manuscrit, le deuil de son fils Rodolphe après Meyerling. Les notices éditoriales présentent les poèmes comme les reflets d'une vie mouvementée, faite de passion, de peine et d'angoisse. Il serait excessif d'y chercher une explication psychologique complète de l'impératrice. Mais ces circonstances donnent une profondeur particulière à une écriture souvent perçue seulement comme satirique ou rebelle. La poésie permet ici de tenir ensemble des registres qui seraient artificiellement séparés dans une biographie l'ironie envers le monde social, le sentiment d'isolement, l'instabilité du désir de fuite et la confrontation à la mort. Cette coexistence empêche de réduire Sissi à une victime passive de la cour comme à une simple figure de provocation. Sa parole oscille entre la critique et la vulnérabilité, entre le refus de l'ordre établi et l'exposition à des pertes qu'aucune indépendance ne peut annuler. Après la mort de Rodolphe, Élisabeth aurait cessé d'écrire des poèmes, selon l'histoire éditoriale rapportée par les éditions du Félin. Cette donnée souligne la place de l'œuvre, elle constitue le témoignage d'une période d'écriture close par un deuil irréversible. Le livre se lit donc aussi comme la trace d'une voie interrompue. Quatrièmement, une conscience politique critique dans l'Europe austro-hongroise finissante. L'originalité du volume tient également à son versant politique. Les présentations de l'ouvrage décrivent Elisabeth comme foncièrement démocrate et soulignent son regard acerbe sur la politique de l'Empire austro-hongrois ainsi que sur les débats d'une Europe en transformation. Dans ce cadre, sa poésie ne se limite pas aux affaires sentimentales ou aux désagréments de la cour, elle remet en jeu la légitimité morale des élites. Les conventions monarchiques et les tensions d'un continent travaillé par les aspirations nationales et démocratiques. Il faut toutefois situer correctement cette portée politique. Le recueil n'est ni un programme doctrinal, ni un traité d'histoire des idées. Son langage est celui de la satire et de l'intervention personnelle. Sa force vient d'une position paradoxale, celle d'une impératrice qui observe de l'intérieur un ordre auquel elle appartient sans s'y identifier pleinement. Cette contradiction rend sa critique particulièrement instructive. Elle montre qu'au sommet de la hiérarchie dynastique, l'adhésion au système n'allait pas nécessairement de soi. Pour les lecteurs intéressés par la fin de l'Empire des Habsbourg, les poèmes apportent ainsi un document complémentaire au récit historique, non pas une explication globale des événements, mais une sensibilité aristocratique dissidente face à un monde instable. Les rêves d'une Europe moderne, associés aux livres par les libraires, prennent alors la forme d'une aspiration critique plutôt que d'un projet politique systématique. En dernier lieu, les coffrets suisses et Titania, une publication qui fait partie de l'œuvre, l'histoire matérielle des manuscrits, constitue presque un second récit, indissociable de la lecture des poèmes. Elisabeth les avait confiés à la Suisse en demandant qu'ils demeurent secrets pendant 60 ans après sa mort. Signé Titania. Ils furent conservés dans des coffrets et leur divulgation fut retardée au-delà de l'échéance prévue après une première ouverture au début des années 1950. Les autorités suisses jugèrent leur contenu trop violent, républicain et cru pour une publication immédiate. Brigitte Hamann obtint finalement l'autorisation de les éditer et les textes parurent en 1984 à l'Académie des sciences de Vienne. Cette trajectoire ne doit pas être considérée comme une simple curiosité bibliophilique. Elle éclaire le caractère volontairement posthume de la parole de Sissi. En s'adressant à une chère âme du futur, selon le récit éditorial, l'auteur semble avoir anticipé que son époque ne recevrait pas aisément ses attaques. La publication différée crée ainsi une distance entre l'écrivaine, son public immédiat et les lecteurs ultérieurs. Son choix concernant les droits d'auteur est tout aussi révélateur, elle souhaitait qu'il bénéficie à des condamnés politiques méritants et à leurs proches dans le besoin. Lorsque l'édition devint possible, les droits furent attribués au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette destination donne une prolongation concrète à la sensibilité politique du recueil et rappelle qu'un texte littéraire peut aussi porter une volonté éthique après la mort de son auteur. En conclusion, le journal poétique de Sissi s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent dépasser la silhouette légendaire de l'impératrice Elisabeth. Les amateurs d'histoire austro-hongroise y trouveront une source littéraire singulière sur la fin du XIXe siècle, à lire en complément des biographies et des études historiques plutôt qu'à leur place. Les lecteurs de poésie, de journaux d'écrivains et d'écrits féminins pourront y observer comment une femme enfermée dans une fonction dynastique mobilise l'ironie, le pseudonyme et le retrait posthume pour préserver une parole propre. La préface de Catherine Clément et le travail éditorial associé à Brigitte Hamann apportent un cadre utile à cette lecture, en particulier pour comprendre la transmission mouvementée des manuscrits. Son bénéfice intellectuel principal est de faire tenir ensemble littérature, histoire politique et histoire de la réception. Là où de nombreux ouvrages consacrés à Sissi privilégient le récit biographique, l'iconographie ou le mythe romantique. Celui-ci donne accès à des textes attribués à l'impératrice elle-même, sans masquer leur ton parfois rude et polémique. Il se distingue aussi des recueils poétiques ordinaires par la destinée exceptionnelle de ces coffrets, par le délai voulu avant publication et par l'affectation solidaire des droits d'auteur. Le livre ne propose donc pas une image apaisée ou définitive de Sissi. Il restitue une voix fragmentaire, engagée et inconfortable, dont l'intérêt n'est précisément de sa résistance aux représentations convenues de l'impératrice. Si vous souhaitez soutenir Elisabeth D. 039, Autriche, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.